Dieu, tu connais nos cœurs, tu sais toutes choses et nous te remercions de nous avoir donné encore cette possibilité de nous retrouver avec toutes ces âmes que tu connais et que tu aimes de toute éternité et auxquelles tu voulais te révéler. Tu sais tout ce qui peut nous attrister, tout ce qui peut assombrir cette fin de temps, mais nous nous confions en toi, à ton amour, et nous te demandons d'être le réparateur de toutes les brèches. Pardonne-nous de tout ce que nous n'avons pas su faire ou su être pour les uns et pour les autres. Restaure nos âmes et que dans ta bonté, un jour, tu nous montres dans la gloire que ce travail n'était pas vain dans le Seigneur. Amen. Je ne voudrais pas que ces dernières soirées soient pénibles ou fatigantes pour vous. On m'a fait remarquer que peut-être le sujet que j'avais eu à cœur de prendre n'était pas aussi intéressant. M'a-t-on dit encore que ce que j'aurais pu vous donner, mais je préférais ne pas vous donner moi-même et vous laisser le goût au moins de la parole de Dieu. Et s'il y en a qui n'aiment pas la parole de Dieu, c'est pas moi qui peut intervenir. Que le Seigneur lui-même agisse dans vos cœurs. Mais ce que je demande à Dieu, c'est que vous ne deviez pas revenir à la parole de Dieu dans une détresse ou dans une épreuve. Alors que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent nous incite à la reconnaissance et à la louange. Le Seigneur a été tellement bon pour les uns et pour les autres. N'avons-nous pas une dette de reconnaissance à son égard? Pourquoi faudrait-il qu'il doive nous frapper pour attirer nos cœurs plus près de lui? Ce n'est pas son désir. Donc ce soir, 25 juillet, les enseignements du Dieu vivant, nous les considérerons en cherchant à découvrir le visage de Jésus dans ces chapitres 28 et 29 qui contiennent tous les deux ensemble 55 versets. Je vous rappellerai une fois encore pour que vous puissiez ce soir travailler tout en écoutant et en lisant ce texte les règles que nous avons suivies. Bien comprendre le sens des mots. Lire avec un cœur humble, sachant que Dieu ne révèle ses pensées qu'à ceux qui savent prendre la place d'un enfant devant lui. Troisièmement, se laisser interpeller par la parole de Dieu, ne pas détourner l'épée de notre propre cœur. Mais quand nous entendons un texte, tout à coup, bien notre conscience se réveille et on se sent vraiment interpellé. Cette parole, elle est pour moi, ce soir du 25 juillet. Puis, nous avons souligné la quatrième règle, retenir, si possible, une parole qui nous enseignera, nous instruira, nous corrigera et nous convaincra. Donc, si on arrive ce soir au 28e, 29e chapitre, vous devriez avoir pu noter au moins 28 ou 29 versets et qui ont pu parler à vos cœurs, parce que vous ne me ferez pas croire qu'il n'y avait dans ces chapitres aucun verset capable de vous atteindre. À moins que je doive dire comme le Seigneur qui constatait à la fin de son ministère avec une grande douleur, une grande tristesse, ma parole n'a pas d'accès auprès de vous. Quand Jésus devait dire cela à la fin de son ministère, lui qui avait quitté le ciel pour parler aux hommes, à ces hommes qui disaient toujours « Nous voudrions voir Dieu pour que nous croyions Dieu, que Dieu se montre. » Dieu en Christ s'était montré. Dieu en Christ avait parlé. Dieu en Christ allait souffrir, donner sa vie pour nous racheter de toutes nos fautes, faire lui-même notre salut pour pouvoir nous l'offrir comme une grâce. Il était triste à la fin de son ministère. Vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. C'est pas vous n'avez pas pu, mais vous n'avez pas voulu. Et il pleurait. Je crois n'avoir jamais terminé une mission ou un camp sans avoir connu profondément cette tristesse. Je n'ai jamais fini une mission dans l'euphorie, ce qui caractérise peut-être certains, mais pour moi, je sens que ma responsabilité est très grande, que je n'ai peut-être pas su vous le faire aimer comme j'aurais dû le faire ou comme j'aurais pu le faire. C'est toujours un constat de faillite, mais en même temps que cela nous remet bien à notre place, cela nous donne l'occasion de mettre entièrement notre confiance dans le Seigneur. Malgré ma faiblesse, Seigneur, tu sais que je t'aime, j'ai essayé de donner ta parole. Et si j'ai été insuffisant, parfaitement insuffisant pour toutes ces choses, je sais en tout cas une chose, c'est que la parole que j'ai jetée, elle n'est pas insuffisante. Elle a la vie en elle-même. Et même si je ne vois pas, moi, les effets de cette parole dans vos vies, toujours, je sais une chose, c'est que la vie étant dans la semence, un jour, cette semence pourra porter du fruit. Mais ce que nous voudrions, c'est que cela ne tarde pas pour vous, parce que vous avez peu de jours. Même si vous êtes jeune, très jeune, vous avez peut-être peu de jours pour glorifier le Seigneur. Quand on va dans un cimetière, on découvre qu'il y a des tombes et que les noms sont des noms de jeunes gens, de jeunes filles et même d'enfants. Alors, cette vie que vous avez, ne la perdez pas, ne la gaspillez pas. Car tout à coup, vous allez paraître devant Dieu. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, je dis cela parce que c'est vrai. Mais il faut y penser. Tout à coup, je suis devant Dieu. Et c'est fini. Jeune ou plus âgé. Nous avons vu Ézéchias, qui devait mourir à quel âge ? 39 ans. Tout à coup, je dis, mais 39 ans. Moi, je me souviens très bien, j'avais 18 ans quand on m'a dit, il y a peu de chances que vous vous en tiriez. 18 ans, j'ai pas demandé de vivre. Mais 18 ans, je me suis dit, c'est long ce que tu as déjà vécu. Mais qu'est-ce que tu as eu comme année pour le Seigneur dans ces 18 ans? Je m'étais converti à 13 ans et demi. Voilà, 18 ans, c'était déjà fini. C'était au mois de juin, je voyais la nature qui était si belle, puis il fallait tout quitter. Mais c'était peut-être mieux de tout quitter maintenant, d'aller vers le Seigneur quand on l'aime encore dans la flamme de la jeunesse. Seulement j'ai dit au Seigneur, si tu me gardes en vie, ma vie elle ne peut être que pour toi. Désormais elle ne peut être que pour toi. Mais je ne te demande pas de me guérir. Mais si vraiment je dois vivre, je ne peux pas vivre autrement que pour toi. Et tu auras mes premières années de jeunesse. Et je suis encore là, mais toujours à l'école. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce qui m'a formé ? C'est cette parole. Pourquoi est-ce que j'aime la parole ? C'est parce qu'elle a été mon guide. Elle m'a façonné. Je n'ai pas eu d'autre maître que cette parole. Et alors, nous avons découvert dans cette parole un visage, un seul maître. C'est qui ? Jésus, notre maître, Jésus. Et je pense toujours à la grande âme de l'Inde, le Mahatma Gandhi, qui a donné ce témoignage. Quand on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas converti au christianisme? Je l'ai déjà cité ici, je crois. Il a dit, les études que j'ai faites en Angleterre et en Europe, mais spécialement en Angleterre, m'ont permis de voir de très près les chrétiens. Et j'ai constaté qu'ils avaient trahi le Christ. Alors voilà pourquoi ils n'avaient pas adhéré au christianisme. C'est un jugement sur nous tous. Est-ce que tous ces frères en humanité que nous avons côtoyés, qui nous côtoient maintenant, puisqu'il y a un grand brassage de peuples dans nos pays, toutes ces personnes qui n'ont pas lu la Bible, je l'ai vu ça au Vietnam, je l'ai vu au Cambodge, je l'ai vu en Afrique, et je me disais, mais comment tout ce monde peut-il connaître un peu le christianisme puisqu'ils ne lisent pas l'écriture? C'est uniquement en voyant la vie de ceux qui se disent chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû découvrir dans nos vies? Est-ce que nous avons montré que nous avions quelque chose de plus que quelque chose? Disons quelqu'un. Est-ce que nos vies leur ont fait envie? Je comprends très bien Gandhi, qui ne voulait pas changer. Alors ça nous parle. Et ça nous met à notre place. Nous sommes humiliés et nous voudrions demander à Dieu qu'il nous donne une vie et qui vraiment témoigne pour le Christ, si vous croyez que le Christ est le Fils du Dieu vivant. Si vous croyez que le Christ est l'incarnation même de Dieu, si vous y croyez, si ce n'est pas une théorie pour vous, si ce n'est pas votre religion, parce que une religion, qu'est-ce que c'est? Moi, ça ne m'intéresse pas, les religions. Ce qui m'intéresse, c'est une vie, que vous ayez cette vie. Cette vie-là, il n'y en a plus. Il y a un livre que peut-être vous avez pu voir, quand nous avions le Sadhu Sundar Singh, qui est la vie d'un hindou qui a connu le Christ, et c'est quelque chose de merveilleux. J'avais 4 ans quand j'étais sur les épaules de mon père à écouter cet hindou qui avait une grande robe. On l'appelait le Sadhu, et il y avait peut-être 2 000 à 3 000 personnes en plein air. Il prêchait dans notre ville de Neuchâtel. Il restait la journée entière en prière, et il n'apparaissait que le soir pour sa réunion, après on ne le voyait plus. Il restait dans le contact, dans le tête-à-tête avec Dieu. Il n'acceptait pas une réunion de plus qu'une par jour. Mais ce qu'il apportait a amené plusieurs âmes à la foi. Il a disparu dans les montagnes du Tibet. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'a jamais retrouvé ses traces. Mais il a eu un témoignage merveilleux. Dieu aime tous les hommes, et il veut se révéler à tout cœur qui le cherche et qui demande la lumière. Puissions-nous être lumière dans le Seigneur, découvrir Jésus. Puis la 6e règle, nous souvenir que toute règle peut avoir des exceptions, ce qui nous empêchera, quand nous lisons l'Écriture, de voir des contradictions dans le texte, et enfin éclairer un texte obscur par des exemples concrets de personnages de l'Écriture. Nous allons essayer de le faire encore une fois. Mais nous passons, je le dis, et je l'espère, rapidement. Chapitre 28e. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. La traduction en français courant rend le texte ainsi. Celui qui agit mal prend la fuite, même si personne ne le poursuit. Mais celui qui a bonne conscience a autant d'assurance qu'un jeune lion. Et cela est tellement vrai. quand on a bonne conscience, on a de l'assurance comme un jeune lion. Mais si on a mauvaise conscience, si quelque chose ne va pas et qu'on n'est pas en règle avec le Seigneur ou avec notre prochain, eh bien, on peut prendre la fuite, même si personne ne nous poursuit. Et quel exemple est-ce que vous auriez de quelqu'un qui s'est caché sans que personne le poursuive? Adam, le premier homme. Il avait mauvaise conscience. Et il s'est caché à l'approche de Dieu. Vous cachez-vous à l'approche de Dieu? Le méchant se cache sans que personne ne le poursuive. Donc, c'est clair. Et vous voyez que vous pouvez méditer sur ce passage en prenant des exemples dans l'Écriture. Verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Eh bien, regardez un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dans les pays où il y a la révolte, les chefs sont nombreux. Chacun veut succéder à l'autre ou prendre le pouvoir à la place de l'autre. C'est un chapitre là qui nous décrit aujourd'hui encore ce que nous pouvons voir dans ces pays où règne le tumulte et le désordre. Vous voyez le verset second dans Français courant. Quand le peuple vit dans le désordre, beaucoup de gens luttent pour le pouvoir. Voilà qui vous paraît plus simple. Hein? Avec un chef intelligent et instruit, la stabilité règne. Et cela est vrai aussi, et on en a des exemples. Là où il y a un chef intelligent, la stabilité règne. S'il y a du désordre, c'est toujours la révolution. 3. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer de pain. Et ça, on le constate aussi. Quand un homme pauvre accède au pouvoir, eh bien, quelquefois, il opprime encore davantage que ne le ferait un riche. Nous avons eu là aussi des exemples. Un homme pauvre, un homme tyrannique, qui opprime les faibles, ressemble à une pluie qui détruit les récoltes. Regardez, on vous parle de l'Éthiopie, je suis bien d'accord, mais qui est-ce qui dirige l'Éthiopie? Je ne vais pas faire de politique. Mais vous pouvez donner, donner et donner encore. Si on ne corrige pas ceux qui sont au pouvoir, eh bien, c'est du gaspillage, tout ce qui va là-bas. C'est quelque chose d'absolument tragique. Il y a des choses qui devraient changer. Verset 4. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Et cela aussi, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas d'ombre sur ce verset. Ceux qui rejettent la loi de Dieu félicitent les méchants. C'est vrai, on le voit. Tandis que ceux qui l'observent combattent les méchants. Allons plus loin. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Et ça, je voudrais le souligner pour vous tous. Quelqu'un qui n'est pas régénéré ne peut pas comprendre ce qui est juste. Alors ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas, il ne peut pas comprendre. Et il ne vous comprend pas. Et ne soyez pas étonnés de cela. C'est dit dans l'Écriture. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, qu'est-ce qui leur arrive? Ils comprennent tout. Ça, c'est une parole merveilleuse. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et ça rejoint ce que Paul lui-même dit à son enfant dans la foi, Timothée. Voyez donc comme les enseignements des proverbes correspondent vraiment aux enseignements de l'Évangile et aussi des Épîtres. Je lis dans 2 Timothée 2, verset 7. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Voilà un verset merveilleux. Il te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et dans les proverbes, ceux qui recherchent le Seigneur, eh bien, ils comprennent tout. Verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, dans la droiture, que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Pas de problème. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Là aussi, tout est compris. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Et cela, c'est aussi une loi du Seigneur. Et c'est ce qui peut arriver. Vous croyez amasser pour vous en employant l'usure, en employant des moyens qui ne sont pas reconnus par le Seigneur, eh bien, vous croirez amasser pour vous, et puis tout cela vous sera enlevé et confié à quelqu'un qui fera du bien aux pauvres. Parce que le Seigneur dit dans l'Écriture, l'or et l'argent sont à vous, non, sont à moi. Et il peut le faire passer d'une poche dans l'autre. Croyez-le, l'or et l'argent sont à moi. Verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, et ils sont nombreux, ceux qui font tout pour ne pas écouter, même dans les réunions, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière, parce qu'il y a des gens qui prient encore, hein, il y a des gens qui prient, malgré qu'ils ne suivent pas la parole, mais ils ont encore quelques prières, hein. Eh bien, leur prière, savez-vous ce qu'elle est? Une abomination. Nous allons lire demain les abominations. Bien, cette prière-là, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Alors, ne me dites pas, oh, mais moi je prie. Vos prières, que sont-elles? Est-ce qu'elles sont agréées par le Seigneur ou bien est-ce qu'elles sont des abominations? Moi, ça me rassure pas que quelqu'un me dise, mais je prie. Oui, mais ta prière, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est agréable au Seigneur parce que ton cœur est droit avec lui? Ou bien est-ce que tu demandes simplement pour que tout se passe bien quand même. Ta prière peut être une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Voulez-vous le bonheur? Marchez dans la droiture et n'égarez pas votre prochain. Verset 11. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Donc, quel est l'avantage? C'est d'être pauvre, hein, et d'avoir l'Esprit de Dieu, plutôt que de se croire sage. Puissiez-vous être sage? Puissiez-vous être riche, peut-être? Parce que si vous êtes riche, vous pourrez faire du bien. C'est cela l'avantage de la richesse, c'est qu'on peut faire peut-être du bien, c'est qu'on peut donner autour de nous. Mais soyons reconnaissants, même si nous sommes pauvres, d'avoir l'intelligence que le Seigneur promet. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et c'est tellement vrai, hein, dans un pays. Vous voyez, quand un méchant vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il y a? Des hommes qui se cachent. L'élite d'un pays s'en va. Dans un autre pays, pour trouver un refuge. Pourquoi? Les méchants ont triomphé et ils veulent arrêter ceux qui ont quelques valeurs, parce qu'on veut les détruire. Alors, il y a ces exodes que nous connaissons. Alors, les hommes se cachent, c'est quel verset, pardon? 12, n'est-ce pas? Chacun se cache, et quand chacun se cache, quand l'élite se cache, qu'est-ce qui arrive dans le pays? La ruine. La misère, la famine et tout ce que vous voulez. C'est quelques méchants qui triomphent. Mais les justes se cachent. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Voilà un verset capital que je vous demande de souligner. Ça, c'est un verset qui doit vous atteindre. Parce qu'il nous concerne tous. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, elle les délaisse ou elle les abandonne, il obtient miséricorde. Comment pourriez-vous commenter ce verset par un exemple? La vie de qui? De David et de Pierre. David ou Pierre, si tu prends l'Ancien Testament, disons David. Tant qu'il cachait ses transgressions, il était malheureux. Et il nous le dit dans le psaume 32e. Et en final, il a avoué à l'Éternel son péché et il a trouvé la paix. Avec l'apôtre Pierre, que vous venez de citer, c'est la même chose. Il a retrouvé la paix quand il a confessé ces choses au Seigneur. C'est un verset qui m'a accompagné dans ma vie. Verset 14. Heureux l'homme, voilà encore une des béatitudes des proverbes, bienheureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a toujours peur? Non. De quelle crainte s'agit-il? La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. La crainte de déplaire à Dieu. Dieu est Dieu. Il est un Père, le Père de tous les hommes, leur Créateur. Alors, je voudrais te plaire. Je suis ta créature, la créature de Dieu. Je voudrais te plaire. Toutes les œuvres le célèbrent. Et pourquoi est-ce que moi, l'homme, je ne te glorifierai pas? Ayez ce désir, ce saint désir de pouvoir glorifier Dieu, d'avoir une vie à la louange de la gloire du Seigneur. Verset 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. On le voit aussi dans certains pays en voie de développement. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. Je ne vais pas nommer des hommes et des pays, mais vous voyez ça aujourd'hui. Quelqu'un qui manque d'intelligence mais qui a du pouvoir, eh bien, il multiplie les actes d'oppression. Si on pense à la Chine avec la révolution qu'ils ont connue, où on a tout détruit, les choses les plus merveilleuses, les plus belles, et on a laissé détruire la révolution culturelle. Mais celui qui est ennemi de la cupidité, il prolonge ses jours. Quand on n'aime pas l'argent, mais qu'on aime le Seigneur, eh bien, il peut y avoir prolongation de jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse. Qu'on ne l'arrête pas. Trouvez-moi un exemple. Judas, chargé du sang d'un autre. Et quel autre? Jésus. Et il est allé jusqu'à la fosse. Qu'on ne l'arrête pas. Il n'y a eu personne sur le chemin de Judas pour lui dire « Pourquoi tu n'attendrais pas que tout s'accomplisse pour retourner vers Jésus ?» Il a pardonné, il pardonnerait à Pierre. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pardonné à Judas, son ami, le plus éduqué de tous les apôtres? C'était certainement Judas. C'est à lui que Jésus avait confié la bourse. Verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité, dans la droiture, trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas suivre deux voies. Vous tomberez dans l'une ou dans l'autre. Et nous continuons. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de quoi? De pauvreté. Il s'en sort jamais. Pourquoi? Parce qu'il poursuit des choses vaines. Quel est votre but? Qu'avez-vous devant vos yeux? Verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des épreuves pour les gens fidèles. Mais les hommes fidèles peuvent parler des bénédictions dont ils sont l'objet. Ils sont bénis. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais il faut être occupé des choses célestes. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Voyez-vous, on ne peut pas devenir riche si rapidement sans travail. Et quand on s'enrichit d'une façon rapide, on peut se demander quels moyens nous avons employés. Et bien souvent, le Seigneur manifeste que sa bénédiction n'est pas avec ceux qui se sont enrichis de cette manière. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, c'est-à-dire de faire des distinctions, des différences, d'être partial. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Pour un morceau de pain, vous voyez des gens qui se livrent au péché, qui volent au lieu d'attendre du Seigneur son intervention. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Voilà un avertissement. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur. Je veux croire qu'il en est ainsi. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Il y a des gens qui n'osent pas dire la vérité à leur prochain et qui les flattent alors qu'ils devraient les corriger, leur dire en face ce qu'on pense d'eux. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché », vous connaissez ces gens-là? Ils volent leur père et leur mère, mais c'est mon père et ma mère. Ce n'est pas un péché de les voler. Je fais partie de la famille. C'est une chose tellement triste quand un père doit constater que son fils le vole ou que sa fille le vole. Hein? Et que ce sont les enfants qui ont dérobé telle chose, alors qu'on a porté peut-être plainte, puis qu'on arrive à découvrir que le voleur est plus proche qu'on ne le pensait, qu'il est dans la maison. Mais on dit, mais c'est pas un péché, c'est mon père. Alors quand vous faites tort à votre père, c'est pas un péché? Ou quand vous faites tort à votre mère, c'est pas un péché? Comment est-ce qu'il est appelé, cet homme-là? Le compagnon du destructeur. Qui est le destructeur? Satan. Compagnon de Satan ou disciple de Jésus-Christ? Que voulez-vous être? C'est ou l'un ou l'autre. L'orgueilleux excite la querelle, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. On l'a déjà vu. Celui qui a confiance dans son propre cœur, qu'est-ce qu'il est? Un insensé. C'est pas en mon propre cœur que je mets ma confiance, c'est dans le Seigneur. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Et marcher dans la sagesse, c'est marcher en Christ, en Jésus. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Ça, c'est une promesse. Si vous savez donner, vous n'aurez pas de disette. Jamais je n'aurai de disette. Si je sais donner, si je sais partager, et nous pourrions vous donner une foule d'exemples où le Seigneur nous a prouvé que quand nous avons donné, il nous a rendu au sens. C'est des choses extraordinaires. C'est des choses merveilleuses. Et si je vous le dis avec conviction, c'est parce que j'en ai vécu pendant plus de ces 50 années au service du Seigneur. Que c'est vrai, cela. Que quand on sait donner, eh bien, le Seigneur pourvoit à nos besoins d'une façon merveilleuse. Pas à pas. Jour après jour, il ne nous donne pas plus que nous n'en avons besoin, mais il nous donne le nécessaire. Et nous pouvons avoir des actions de grâce. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Vous voyez que ça revient ce verset, parce qu'on en avait peut-être besoin. Mais quand ils périssent, les justes se multiplient. Vous voyez, quand un homme qui a été à la tête d'un gouvernement disparaît et que quelqu'un de plus sage prend la place, ceux qui avaient dû se cacher réapparaissent. S'ils sont encore en vie. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dû quitter leur pays souvent? C'est pour leur vie. Parce que s'ils y étaient restés, on les aurait arrêtés. Et son procès, son jugement, on les aurait liquidés. Voilà le chapitre 28. 29. Un homme qui mérite d'être pris et qui rédit le coup sera subitement brisé et il n'y a pas de remède. C'est ça qui nous attriste. Quand on vous fait une remarque et qui est justifiée, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous justifiez vous-même? Redire votre coup? Dire non, moi je ne fais pas ça? C'est justifié. On vous met les choses sous les yeux. Puis au fond de votre conscience et de votre cœur, vous savez très bien que c'est juste. Vous savez très bien que c'est juste. Sinon, alors vous seriez un idiot. Ou une idiote. C'est la même chose. Sachez plier votre cou, baisser la tête. Qu'est-ce qui a baissé la tête? Jésus. Sur la croix, lui, il a baissé la tête. Puis nous, nous raidissons notre cou. Comme les gens d'Israël, ils raidissent leur cou. Mais il est dit que celui qui raidit son cou sera brisé subitement sans remède. Quel exemple d'un homme qui a été exhorté plusieurs fois de faire la volonté de Dieu et qui ne l'a pas fait et qui fut subitement brisé. Je pense au pharaon, par exemple, d'Égypte. Le pharaon. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et c'est vrai, hein, quand il y a tout à coup dans un pays quelque chose de favorable, puis qu'on voit les justes se multiplier, bien tout le peuple en bénéficie, il est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. C'est vrai. Alors passons. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente les prostituées, qu'est-ce qu'il fait? Il dissipe son bien, comme l'enfant prodigue. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Là aussi, nous avons les exemples. Un homme qui flatte son prochain, qu'est-ce qu'il fait? Il tend un filet sous ses pas, et il va tomber dans le filet. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Vous voyez, l'homme qui est méchant et qui pêche, eh bien, dans son péché, il y a un piège. Et il y tombera. C'est son péché qui le punira. Son péché qui le trouvera. Mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste aussi peut pécher. N'est-ce pas? Nous pouvons tomber. Mais il n'y a pas de piège là. Tandis que quand on est méchant, il y a un piège dans le péché du méchant. C'est ça qui le fait tomber. C'est ça qui le condamne et qui le juge. Tandis que le juste, c'est-à-dire celui qui a accepté Jésus-Christ, qui est justifié en lui, il peut encore pécher, mais c'est un péché accidentel. Il n'y a pas de piège. Il s'en juge et il se relève. Et il est pardonné. Nous sommes à quel verset? Le 7. Merci. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Et c'est vrai, les hommes qui ne craignent pas Dieu, eh bien, quand il y a une émeute, qu'est-ce qu'ils font? Ils attisent le désordre. Tandis que celui qui est sage, il calme la colère. C'est un élément d'ordre dans le peuple. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Là aussi, nous pouvons en tirer des conséquences. Est-ce que ça vaut la peine de contester avec un insensé? Inutile. Parce que on aurait beau se fâcher ou prendre les choses à la légère ou rire, la paix n'aura pas lieu. Alors pourquoi que je m'embarquerai dans ce chemin-là? Les hommes de sang haïssent un homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. Là aussi, vous avez une foule d'exemples dans l'Écriture. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Pourquoi il la contient? Parce qu'il est maître de lui-même. Tandis que le fou, il n'est pas maître de lui-même, alors il met dehors toute sa passion. Tandis que nous pouvons contrôler notre passion. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants. On vit alors dans le mensonge. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, car l'Éternel qui éclaire les yeux, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Là encore, trouvez des exemples. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Nous avons des exemples dans les pays qui nous entourent aussi, mais aussi dans l'Écriture. La verge et la correction donnent la sagesse. Voilà qu'on revient à la correction de l'enfant. Mais l'enfant livré à lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Mais les justes contempleront leur chute, parce que ce n'est pas les méchants qui auront le dernier mot. Nous pouvons en être certains. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il te procurera les délices à ton âme. Nous aurions là des témoignages remarquables de gens qui peuvent dire que ça a été vrai. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On fait chacun ce qui nous semble bon. Mais s'il y a une révélation, si on a une direction, alors on est heureux en observant la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Quand même il comprend, il n'obéit pas. L'esclave ici est considéré aussi comme un enfant. Et c'est quelquefois inutile de le châtier par des paroles, il ne le comprend pas. Donc, là, il faut une correction corporelle. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Pas besoin d'explication. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Il prend une position qui ne lui revient pas, parce qu'on l'a traité mollement. Un homme colère excite les querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Vous pouvez être certain de cela. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Qu'ils sont petits les orgueilleux. C'est des rampants. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Tous ces orgueilleux qui sont que des bassés. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Qu'est-ce alors qui nous élève? C'est l'humilité. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Quand quelqu'un a volé, puis qu'il vous dit, je t'en donne la moitié de ce que j'ai volé, est-ce que vous l'accepteriez? Pourquoi fait-il cela? C'est pour vous compromettre. Hein? Parce que si vous avez accepté ce qui vient d'un voleur, vous êtes de mèche avec lui, semble-t-il. Alors, gardons-nous des choses dérobées. C'est aussi toute l'histoire du recel. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Ne pas déclarer, mais c'est du vol, ça. Alors, vous le savez et vous ne le dites pas, vous êtes compromis. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Un jour, il y a 30 ans de cela, oui, dans une conférence, j'ai dû faire un message qui a porté sur la crainte des hommes. On a la crainte de Dieu, mais on a aussi la crainte des hommes. Et trouver des hommes qui ont eu la crainte des hommes, qui ont été paralysés parce qu'ils avaient peur des hommes. Que de bêtises ils ont fait. La crainte des hommes tente un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Pourquoi est-ce qu'on craint les hommes? Les hommes qui vont passer, ils peuvent nous menacer. Qu'est-ce que c'est? Je ne craindrai pas l'homme. Et vous voyez, les disciples, les apôtres, quand ils ont été persécutés, ils n'ont pas vécu dans la crainte des hommes. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Qui est-ce qui domine vraiment? C'est Dieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez rechercher? Si vous voulez vraiment rechercher la faveur de celui qui domine, recherchez la faveur de Dieu. Ne recherchez pas la faveur des hommes qui dominent, parce qu'ils dominent que pour un temps. Vous vouliez la faveur de René Lévesque? Très bien. Mais s'il n'est pas, nommé après, recherchez la faveur de Dieu. Mais ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Verset 27. L'homme inique est en abomination au juste. Et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Est-ce qu'il y a ce contrat? Être en abomination au méchant. C'est vrai, celui qui veut vivre une vie droite, il est un gêneur aujourd'hui. Et tout le monde voudrait que vous fassiez les mêmes choses. Pourquoi? Calmer leur conscience. Tout le monde le fait. Pourquoi tu ne le fais pas, toi? Tu es un gêneur. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Si vous vivez d'une façon droite, ceux qui vous entourent le constatent et vous devenez un gêneur pour eux, un reproche. Il n'y a pas besoin de reprocher aux gens leur propre vie. Si vous, vous n'avez pas la même vie, vous êtes classé et on vous aura peut-être en abomination. Heureux êtes-vous si vous êtes en abomination parce que vous voulez marcher dans la justice, si vous êtes en abomination aux méchants. Mais que les méchants, que les voix des méchants vous soient aussi en abomination, que vous sachiez faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, et marcher avec ceux qui veulent honorer le Seigneur.